Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Aujourd'hui, l'émission Point de mire rend compte de la remise des prix Terre de Femmes 2006 de la Fondation Yves Rocher qui s'est déroulée le 8 mars 2006 à l'Institut de France en grande salle des séances comble pour l'occasion. Je vous propose de vous présenter l'action de la Fondation Yves Rocher, d'entendre les discours du chancelier de l'Institut, Gabriel De Breuil, celui de Jacques Rocher, président du groupe Yves Rocher, et celui de François Terré, président du jury, membre de l'Institut. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, chaque année depuis 5 ans, la Fondation Yves Rocher Institut de France décerne à l'Institut le trophée Terre de Femmes. Le rôle de cette fondation est de primer des femmes exemplaires. La fondation récompense des femmes qui œuvrent pour un monde plus vert, pour des actions de protection de la nature. Arroser, semer, planter, conserver. Depuis 1991, la Fondation Yves Rocher Institut de France protège la planète verte et la Fondation se veut éco-citoyenne et soutient les actions des hommes et des femmes engagés dans l'éducation à l'environnement et la conservation botanique. Alors, pour expliquer davantage ce que représente le trophée Terre de Femmes, je préciserai simplement que depuis 2002, chaque année, la Fondation remet un prix à des femmes, en France et ailleurs, aussi à l'étranger, sur les deux plans, qui se battent pour la survie de la nature, et ces prix sont remis le 8 mars, le jour de la Journée internationale de la femme. Et ces prix sont remis à l'Institut Kay Conti. Donc, il récompense, comme je le disais, des actions qui améliorent l'environnement. L'important, c'est surtout que ces actions puissent être répétées par d'autres. C'est ce qui motive la sélection des lauréats. En 5 ans, la Fondation Yves Rocher Institut de France a récompensé 88 femmes bénévoles qui agissent partout dans le monde. Elles sont issues, bien entendu, d'horizons divers. Et depuis la création du trophée, la Fondation a remis, elle a récompensé 88 femmes, elle a remis 91 prix, mais elle a soutenu des projets extrêmement variés, dont voici quelques exemples. L'animation d'un jardin de plantes aromatiques, médicinales et ornementales pour des enfants en difficulté. La création d'un conservatoire du patrimoine végétal du Cap Corse. Une action de sensibilisation à l'écologie auprès des enfants du Tibet, par exemple, ou bien la protection du patrimoine naturel de Bornéo. Chaque année, donc, la Fondation suit aussi ses lauréats, ses femmes récompensées. Elle les accompagne dans le développement de leurs actions. Le palmarès se déroule, comme nous venons de le voir, sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan international, 9 pays ont rejoint la Fondation pour décerner le trophée Terre de Femmes. Et à l'étranger, on retrouve donc l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, les États-Unis, le Canada, la Russie et la Suède. Chacun de ces pays désigne 3 candidates. La Fondation leur décerne un prix spécial Terre de Femmes. En plus, enfin, la Fondation décerne un grand prix international qui a récompensé l'an dernier Ries Ziervada. Je vous propose d'entendre maintenant le discours d'ouverture du chancelier Gabriel De Breuil lors de cette cérémonie. Écoutons son discours le 8 mars 2006, Journée internationale des femmes, prononcé en grande salle des séances à l'Institut de France devant un large public.
Monsieur le Président, mon cher confrère, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour procéder à la remise des trophées Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher Institut de France. C'est la première fois que mes choix ce plaisir, qui d'année en année s'est installé dans nos murs et dont le prestige à l'extérieur ne fait que croître. Depuis longtemps, d'ailleurs, suivant, ainsi que mes confrères des différentes académies, le développement de notre fondation, sous les auspices du chancelier Pierre Messmer, je m'étais convaincu que le nom donné au prix qu'elle distribuait était un choix heureux. Terre de femmes. La pensée entend inévitablement un écho à peine conscient, terre des hommes. tant l'œuvre de Saint-Exupéry a marqué plusieurs générations françaises qui ont puisé dans ce titre et dans ce livre un modèle de volonté vertueuse. Ces deux terres, celle des femmes et celle des hommes, n'entrent pas en opposition l'une avec l'autre, mais l'une d'elles, chaque 8 mars, semble plus lumineuse que l'autre. Il m'est revenu en mémoire ces vers de Hugo dans La Légende des siècles. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cet attendrissement immense du profond et divin firmament ? Pourquoi tout l'univers penché sur une tête ? Pourquoi l'aube donnant à la femme une fête ? Pourquoi le 8 mars, en effet ? Pour célébrer la femme, certes, mais nous devrions et nous devons, nous avons envie de le faire chaque jour. C'est pour rappeler la lutte séculaire des femmes, sinon exactement pour l'égalité des sexes, du moins pour l'équité entre eux. C'est en effet le 8 mars 1810 que des femmes manifestaient à Copenhague en faveur de l'obtention du droit de vote. C'est cet événement que nous commémorons et, à un siècle de distance, nous pouvons mesurer le chemin parcouru dans la reconnaissance du rôle des femmes dans la vie de nos sociétés. Mais on peut également prendre conscience du chemin qui reste à parcourir dans nos pays et dans le reste du monde. Mais cet esprit de lutte, même si nous en reconnaissons la nécessité, nous le reconnaissons, n'est pas celui qui préside à la destinée de notre fondation. C'est un lien de confiance que le groupe Yves Rocher, spécialiste incontestable des soins de beauté naturelle, a su instaurer avec plus de 20 millions de femmes, considérées non seulement comme des clientes, mais comme porteuses de valeurs, d'harmonie et d'espoir. Platon n'aurait-il pas dit que la recherche du beau ne pouvait conduire qu'à la recherche du bien ? Terre de femmes, j'y reviens. L'expression est bien choisie, car de manière immémoriale, les hommes ont bâti des ponts métaphoriques entre ces deux termes. Des Vénus de terre du paléolithique aux théories des médecins antiques, à celles de leurs héritiers maintenant, aux poètes romantiques ensuite, les intelligences se sont plu à tisser des liens puissants entre la femme et la nature. Je voudrais citer d'autres vers de Hugo. Chair de la femme, argile idéale, ô merveille. Ô pénétration sublime de l'esprit dans le limon que l'être ineffable pétrit. Matière où l'âme brille à travers son suaire, boue où l'on voit les vins, les doigts du divin statuaire. La comparaison des femmes à la terre ne fut pas toujours entièrement bénéfique pour ces dernières. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la terre est susceptible de périr sous les folies de la technique des hommes et que les femmes nous apparaissent comme porteuses d'un souci nouveau, celui d'un bien commun qui transcenderait les générations et assurerait à celles de demain la possibilité d'une vie heureuse. Tel est bien le sens de la création des trophées Terre de Femmes et du Grand Prix international que nous remettons aujourd'hui. Il s'agit d'un programme d'envergure. Il a pour objectif d'aider et de soutenir toutes celles qui œuvrent pour la sauvegarde de notre planète grâce à des actions de développement durable. Il s'adresse à toutes les femmes qui s'engagent et agissent en faveur de la nature, de l'environnement et du bien-être de chacun. Ces actions uniques, originales, exemplaires, généreuses, menées par des femmes célèbres ou inconnues, méritent d'être saluées et soutenues. Le jury, placé sous l'autorité de mon confrère, M. François Théré, composé de membres de l'Institut, de membres du directoire du groupe Yves Rocher et de personnalités extérieures, a examiné cette année encore de très nombreux dossiers d'une très grande qualité. L'action de la Fondation ne se limite pas au cadre de l'Hexagone. Il acquiert une réelle dimension internationale. À côté des 5 trophées qui sont attribués pour la France, des lauréates ont été choisis en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas et depuis cette année en Suède, en Russie, au Canada. D'autres pays s'apprêtent à rejoindre notre fondation dans les années à venir, le Portugal et la Chine. Je tiens à signaler l'attribution d'un prix spécial à deux représentantes d'un petit royaume situé dans les hauteurs himalayennes, le Bhoutan. Ce pays offre cette particularité que dans une des vallées qu'il compose, ce sont les femmes qui commandent. Elles sont propriétaires des terres, de la maison, de la ferme, transmettent par héritage leurs possessions à leurs filles et prennent les décisions importantes. Cette rareté matriarcale valait la peine d'être mentionnée aujourd'hui. Les valeurs portées par notre fondation sont des valeurs universelles qui transcendent le tracé des frontières. Nous entendons mettre en avant les valeurs de civilisation nouvelle, plus respectueuse de la nature et de l'environnement. Mesdames, vous dont les actions vont être dans un instant distinguées, je salue à travers vous, au nom de la Fondation Yves Rocher Institut de France, la communauté des femmes et des hommes de bonne volonté qui assument pleinement leurs responsabilités dans le respect des valeurs humanistes et que vos actions servent de modèle pour l'instauration d'un monde plus juste, plus équilibré, plus humain.
Écoutons maintenant le discours de Jacques Rocher, président du groupe Yves Rocher, dont l'intervention suivait celle du chancelier.
Le trophée Terre de Femmes a aujourd'hui 5 ans. C'est un bel âge pour faire un bilan et se projeter dans l'avenir. Terre de Femmes, c'est d'abord une belle histoire. Une histoire de femmes qui se mobilisent pour la nature et pour l'humanité. Ce trophée est le reflet de la globalisation de notre monde. Cette globalisation nous permet bien sûr de connaître un développement économique et notre groupe en est un des acteurs. Mais cette globalisation nous permet également de nous ouvrir vers d'autres réalités, d'autres cultures, d'autres mentalités. C'est tout l'esprit de ce trophée. C'est tout l'esprit de l'Institut de France, à savoir avoir une démarche universelle. Nous avons reçu plus de 700 dossiers. 30 femmes sont lauréates. J'ai une petite pensée aussi pour les autres, car elles sont aussi des femmes exceptionnelles. Vos actions, mesdames, sont locales et globales. Vos actions ont pour principal objet de changer le monde, de changer nos mentalités vis-à-vis de la nature. Votre principal trait de caractère est que face à l'adversité, vous continuez à vous battre. Je sais que c'est un mot plutôt utilisé par les hommes, mais dans ce sens, pour moi, il a une grande valeur. Vous continuez à vous battre pour soutenir vos projets, des projets qui associent les enfants, qui associent les femmes et les hommes, de bonne volonté, des projets porteurs d'avenir pour l'humanité. Je tiens personnellement à remercier et à dédier ce trophée à un homme d'exception qui incarne l'esprit même de l'Institut de France. Je veux parler de monsieur le chancelier Messmer qui a soutenu dès son début ce projet. Demain sera un monde plus vert. C'est la philosophie même de la Fondation Yves Rocher Institut de France. C'est certes une utopie, mais nous pensons que c'est notre devoir d'agir en ce sens. Chaque action, aussi petite soit-elle, a son importance. Chaque personne a un rôle à jouer pour notre bien-être, mais également pour celui des générations futures. Merci à vous, mesdames, de porter ces valeurs et de les transmettre au plus grand nombre. Car la nature est universelle.
Le dernier extrait de cette cérémonie que je vous propose d'entendre est le discours du président du jury François Terret, membre de l'Institut, académicien, juriste de l'Académie des sciences morales et politiques.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, mesdames, messieurs, mon impression première de séance annuelle en séance annuelle me donne l'impression d'un progrès fulgurant, ou en tout cas l'assistance est telle que je m'interroge sur le point de savoir dans quelle salle l'an prochain il sera possible de réunir tous ceux qui sont intéressés et qui vivent l'expérience de la Fondation Yves Rocher, y compris, d'ailleurs, je m'aperçois dans la salle, les plus jeunes, et même là-bas, près de la porte, les encore plus jeunes, qui sont bien entendu les bienvenus à l'Institut de France. Il m'incombe seulement de vous présenter quelques réflexions sur le jury et son activité, la manière dont il a rempli sa tâche, et je le fais d'autant plus volontiers que, premièrement, je ne fais pas partie de l'Académie des sciences, mais des sciences morales et politiques, et donc le monde végétal peut présenter pour moi quelques mystères, mais justement, je le surmonte à l'occasion de ces divers jurys. Et d'autre part, si l'on parle du monde vert, comme il était question à l'instant, je tiens à dire tout de suite que je suis complètement daltonien et que par conséquent, le vert est une couleur qui m'est restée toujours depuis le plus jeune âge mystérieuse, que j'ai transmis à un petit-fils comme je l'avais transmis, reçu de mon grand-père. Alors, simplement, cela donne peut-être plus d'objectivité, et en tout cas, cette objectivité a été relayée par les membres du jury qui, véritablement, ont œuvré de manière parfaite et remarquable. Je dirais même que ce qui a frappé, c'est l'obtention quasi unanime de l'unanimité dans le classement. Chacun y va avec sa grille de classement différente. Il y a les gentils et puis il y a les méchants. Le gentil note entre 18 et 21, entre 17 et 22. Le méchant descend jusqu'à 13, parfois 12. Mais les grilles de correction, quand on additionne toutes les notes, parviennent exactement au même résultat. Et je peux dire que les membres du jury ont accompli un travail dont je les remercie au nom de la Fondation Yves Rocher et la Fondation Yves Rocher elle-même qui a pu préparer les dossiers de manière remarquable. Il est évident que les préoccupations qui nous ont inspirés sont des préoccupations à la fois extraites de la considération de l'histoire, de la géographie, et même donc de préoccupations avant tout humaines qui inspirent évidemment le développement de cette belle fondation. Que voulions-nous distinguer ? Oh, il y avait un certain nombre de critères qui ont inspiré nos choix. D'abord, le caractère original de l'entreprise. Deuxièmement, son caractère durable. Les préoccupations aussi, surtout du monde, essentiellement, fondamentalement, du monde végétal. Et finalement aussi, le caractère humain de tout ce qui présentait pour nous quelque chose d'essentiel et dans les temps qui courent d'insurmontable et en tout cas d'irremplaçable plutôt. Alors mes remerciements vont à tous. Je m'efface ensuite devant les décisions du jury. Les universitaires savent ce que c'est que des jurys, ils sont des juges à leur heure et ça leur rappelle quand ils ont dépassé l'âge de la retraite et ont perdu leurs vacances, le plaisir de juger les autres avec le plus de probité intellectuelle possible. Je vous remercie.
Ce jour-là, le 8 mars 2006, à la fin du palmarès, nous avons reçu dans le studio de Canal Academy les trois premières lauréates françaises, Laura Wynne, Dominique Dupuis et Rosemarie Téchouer. Je vous propose d'écouter l'interview réalisée. Aujourd'hui, dans l'émission Point de mire, j'accueille les lauréates du trophée Terre de Femmes 2006. En fait, trois lauréates du prix national, du prix France. C'est un grand trophée décerné à la fois sur le plan national et sur le plan international. Et le palmarès cette année a décerné un prix à Laura Wynne, à Dominique Dupuis et à Rosemarie Fleury-Téchouer. Merci mesdames d'être parmi nous pour partager ce moment en ce 8 mars 2006, Journée internationale des femmes. Tout d'abord, toute l'équipe de Canal Academy vous félicite pour ces prix et nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour.
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 Alors, le prix Terre de Femmes, le trophée Terre de Femmes récompense des femmes exemplaires dont l'action est tournée vers le développement durable, vers la protection de la nature, vers l'écologie. Et l'idée, c'est d'abord de récompenser des actions qui créent quand même du lien social et qui soient imitables par d'autres associations. Dans ce cadre, le premier prix cette année a été décerné à Laura Wynn pour une action sur une pépinière de variétés anciennes de pêche. Alors, d'où viennent ces pêchers du côté de Montreuil, Laura Wynn ?
Voilà, en fait, à Montreuil, il y avait une tradition de culture de pêcher sur des espaliers, sur des murs, dont le nom de l'association, l'association des murs à pêche, qui est tout un quartier de Montreuil. Et en fait, c'est des techniques qui existent depuis le XVIIe siècle et qui ont périclité en début XXe siècle et que nous, à l'association, on tend à préserver ce lieu, à le faire connaître et puis à remettre en culture avec un verger à l'ancienne, retrouver les anciennes variétés justement de pêche qui étaient développées par les arboriculteurs de la ville de Montreuil.
Alors, comment se fait-il déjà qu'il restait à Montreuil des espaces de vergers, de jardins, de terrains cultivés ? Comment avez-vous découvert d'abord ces pêchers ?
Alors en fait, au XIXe siècle, il y avait les deux tiers de la ville qui étaient couverts et maintenant il en reste plus que 38 hectares.
Et vous avez connaissance de ces pêchers comment ?
Alors moi j'en ai un peu entendu parler, on siffle un peu dans l'oreille des fois à Montreuil, mur à pêche, etc. Mais on voit pas trop à quoi ça correspond parce que ça évoque plein de choses qui nous disent pas grand chose. Et donc un jour, en me promenant dans la ville, j'ai été dans une petite impasse qui devient un chemin de terre et qui mène dans ces lieux qui sont un peu un labyrinthe parce que c'est des murs qui font 2,5 mètres de haut. Et où, à l'intérieur, il y a des jardins, il y a des gens qui travaillent, qui accueillent et qui parlent justement de l'histoire de tout ce quartier.
Alors, vous avez rencontré des personnes donc au cours d'une promenade et l'idée vous est venue de lancer une association ?
Non, l'association existait déjà quand je suis arrivée. Alors moi, j'ai tout de suite souhaité participer à l'association et surtout de mener un peu plus loin cette action parce que c'est une association à la base qui était surtout militante pour préserver ce lieu. Et on a eu des actions très concrètes qui ont abouti au classement du site en décembre 2003 au site Cité Paysage de France. Et ça, c'est nous a permis justement de lancer des projets beaucoup plus concrets pour faire un chantier d'insertion pour la création d'une pépinière de variétés anciennes de pêcher de Montreuil et aussi pour la restauration des parcelles et des murs.
Qui participe à l'entretien de ces pêchers et au développement, à la plantation, à la récolte, j'imagine, à un moment ? Tout peut être un moment de fête ?
C'est un moment de convivialité et de convoitise. on a des pêches superbes. C'est surtout des bénévoles qui participent. Donc, c'est des gens de la ville de Montreuil. On a des personnes qui ont des connaissances incroyables en horticulture. Et on a beaucoup de personnes qui sont plutôt amateurs, voire ils n'ont jamais rien fait du tout. Et ils ont vu ces arbres et ils ont dit oh, « ça, j'ai envie de savoir comment ça marche, j'ai envie de participer ». Et sinon, on a aussi une petite équipe de personnes en insertion et avec un encadrant et qui, eux, ont une formation d'horticulture. Et à côté, ils mettent en place cette pépinière et ils font de la culture de fleurs et ils restaurent les murs.
Et vous faites aussi participer des écoles à ce projet ? C'est tellement ouvert, disons, sur la ville, à tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi un partenariat avec des écoles ?
Bien sûr, on travaille beaucoup avec les écoles du quartier, avec les centres de loisirs.
Avec les écoles primaires, j'imagine.
Avec les primaires, avec les collégiens aussi. Alors les primaires, c'est plus sur les cycles de la nature, ils reviennent plusieurs fois. Et puis on parle aussi un peu de l'histoire de la ville. Avec des collégiens, c'est un peu plus élaboré.
Et vous avez aussi des personnes qui sont sans activité, plus âgées ?
Oui, ça regroupe vraiment tout le monde. On a des enfants, on a des familles qui viennent, on a des associations écoles et nature, on a des parents qui viennent avec leurs enfants, on a des personnes âgées, on a des personnes actives, on a tout ce qu'il faut.
Combien de variétés anciennes de pêchers sont aujourd'hui cultivées ?
Alors nous, on a réussi à retrouver une dizaine de variétés anciennes Il en existe d'autres, on est à la recherche. Alors souvent, parce que des pêchers vivent pas très longtemps, il en restait pas sur le site des murs à pêche. Donc on a dû aller les retrouver dans des pépinières ou dans des conservatoires de fruits anciens, un peu partout en France. Et maintenant, on va commencer à regarder un peu à l'étranger. J'ai un peu des contacts en Angleterre, parce que c'est des fruits de luxe, des fruits qui étaient de très bonne qualité. Donc on risque aussi peut-être de les trouver dans des pépinières à l'étranger.
Alors vous qui avez dû les goûter, quel goût justement extraordinaire en ces pêches.
Elles sont très subtiles en fait, c'est des pêches blanches. Elles peuvent être très grandes, elles sont très juteuses, mais elles ont un parfum très subtil, plutôt fleuri.
Et vous réunissez autour de ces pêches donc toutes les générations, tous les habitants d'un quartier, j'imagine. Ça redonne aussi de l'activité au quartier, mais aussi au sein de la ville. Et c'est rare aujourd'hui de retrouver des projets qui réunissent toutes les générations, tous les milieux.
Tout à fait.
Là, vous vous inscrivez dans une action vraiment citoyenne.
Exactement.
En tout cas, nous vous remercions beaucoup et nous vous félicitons à nouveau pour ce premier prix du Trophée Terre de Femmes 2006.
Merci beaucoup.
Dominique Dupouille, vous avez reçu le second prix pour une action sur les jardins familiaux Tournesol de l'Association des jardiniers de Tournefeuille. Mais là encore, on est dans un projet, une action. Ce ne sont plus des projets, ce sont vraiment des actions qui réunissent là aussi toutes les générations.
Tout à fait, oui. C'est aussi un jardin à la ville, en fait, parce que Tournefeuille est une ville qui grossit énormément à la banlieue de Toulouse, parce que Airbus arrive sur le site, donc on a énormément de monde qui arrive sur la commune. C'est une commune qui a à peu près 30 000 habitants maintenant. Donc c'est un jardin dans la ville, effectivement, pour créer du lien social entre deux populations qui ne se rencontraient pas forcément, c'est-à-dire les gens qui habitent en pavillonnaire, qui ont leur jardin, et les gens qui habitent dans les immeubles. Ce sont souvent des personnes d'origine étrangère qui ont du mal à s'intégrer au niveau des associations, hein, qui ont une certaine pudeur, qui n'osent pas franchir le pas.
Et puis là, il n'y a plus le problème de la langue, justement.
Il y a quelques problèmes de langue. Il y a quand même, heureusement, il y a un groupe d'alphabétisation qui participe aussi un peu au projet des jardins familiaux. Donc ça aussi, c'est ouvert un peu sur le monde associatif, de toute façon. Donc voilà, c'est du lien social par la terre, en fait. Par le contact de la terre et par les choses que les personnes ont en commun de leur histoire culturelle, dans le sens culture maraîchère ou culture de fleurs ou de leur pays. Parce qu'il y a à peu près 10 nationalités sur les jardins.
Vous avez combien de personnes viennent jardiner?
On veut créer 75 parcelles individuelles. Elles sont faites, hein. Donc le jardin est ouvert en octobre. Il y en a 65 personnes qui actuellement ont demandé une parcelle.
Ils viennent avec leur famille,
voilà,
avec leurs
amis.
Voilà,
tout à fait, avec leur famille, bien sûr, tout le temps. Le jardin est ouvert tout le temps. Donc de toute façon, ils viennent quand ils le veulent. Donc là, cet hiver, ça a été un petit peu creux, bien sûr. Hein. Ils ont préparé leur terre en octobre. Mais là, on voit bien que les petits beaux jours arrivant, les gens reviennent sur les jardins.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans des actions destinées à préserver l'environnement?
D'abord, ça fait très longtemps que je suis un peu écologiste dans l'âme, dans ma vie de tous les jours. Et voilà, et puis comme je cherchais un projet social, j'ai essayé d'associer les deux. L'écologie, le social et le jardinage, parce que je suis une fan de jardinage quand même.
Et en tant que femme, est-ce que vous portez un regard différent sur la nature et sa préservation?
Moi, je dirais un peu oui, parce que je pense qu'on a un rapport par rapport à la maternité, on a un rapport par rapport à la terre, par rapport au suivi, par rapport aux enfants. Bon, mais c'est une sensibilité, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ce rapport-là. Voilà, tu n'es pas tout
Laura,
à fait d'accord,
oui,
Laura, je crois.
Réagir sur cette remarque?
Non, je pense qu'en fait, elle a raison, mais c'est-à-dire que chacun a son rapport propre à la nature et à l'environnement, et les enfants, ils ont un rapport très particulier aussi, et les hommes de leur manière, et des femmes, et ça se croise aussi.
Bien sûr, tout à fait.
Quel est le moment fort de l'association?
Le moment fort de l'association, c'est un peu l'année dernière, en fait, parce que les jardins, ça fait 2 ans qu'on y travaille quand même, hein, sur ce projet. Donc le terrain, ça fait 1 an et demi qu'on l'a. Donc on a voulu fédérer déjà un petit peu les jardiniers qui s'étaient inscrits, puisqu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient inscrites sur la liste.
Donc avant, c'est un terrain de combien?
De 2 hectares. Donc dès que les travaux ont été finis l'année dernière, en avril 2005, on pouvait pas leur donner leur parcelle parce que c'était pas prêt. Donc on a créé sur la parcelle communautaire une opération qui s'appelle Jardin pour les autres. Et donc avec les jardiniers de France qui nous ont offert 6 000 plants de pommes de terre, On a planté 6000 plantes, pommes de terre. Ça a été très, très dur. Il y a à peu près 80 personnes qui sont venues de la commune, que ça soit des adhérents, des jardiniers, gens intéressés par la démarche. Et on a récolté, alors pas beaucoup parce qu'on a eu un été très sec, on a eu des soucis, 500 kilos de pommes de terre qu'on a distribuées au Secours catholique et au Secours populaire.
Donc votre association est en lien avec d'autres associations et on voit que ces entreprises déjà généreuses poursuivent
et d'ailleurs,
cette
le Secours catholique,
de redistribution et de partage de votre action.
Le Secours catholique qui a des bénéficiaires a participé à cette opération plantation de pommes de terre et par ce biais-là, des bénéficiaires du Secours catholique ont demandé des parcelles. Donc là, je pense qu'on a réussi quelque chose parce que c'est pas forcément des gens qui vont vers les associations. Donc,
aujourd'hui, avec ce second prix Trophée Terre de Femmes, prix national France, qu'allez-vous apporter de nouveau à votre association ?
Alors déjà, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a déjà fait un prêt pour acheter les cabanons sur les jardins familiaux, donc ça va nous servir certainement à le rembourser. Et ensuite, se pose la question, bon, pour l'instant, il y a deux jardiniers par cabanon. Donc on considère que c'est égalitaire, c'est très bien. Donc le choix, c'est soit on achète quelques cabanons supplémentaires, pas pour tous parce qu'on n'aura pas assez, soit on fait une maison commune. Donc là, ça va se discuter avec eux. Donc notre idée, c'est de faire une maison interpaille, donc très fédérateur, puisque bon, là, tout le monde peut participer, mettre la main à la pâte, mélanger, et voir la maison se construire petit à petit. C'est quelque chose qui se fait.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison interpaille?
C'est une maison en ossature bois. Donc, c'est une maison écologique, en fait.
Oui.
Voilà, un ossature bois.
Et la Fondation Yves Rocher est sensible à ce critère des matériaux et de construction qui pourraient s'inscrire justement dans le développement durable.
C'est-à-dire que les jardins sont déjà écologiques, ils sont déjà qualité bio, puisque les jardiniers ont signé une charte dans laquelle ils n'utilisent pas de produits chimiques. Et je pense que c'était une très bonne continuité, la terre à la terre, donc une maison en terre. Pour moi, c'est la logique.
Bon, alors effectivement, là, on renoue avec la boucle sur le trophée Terre de Femmes, c'est le nom de ce trophée. Et nous accueillons aussi Rosemarie Fleury-Téchouer, qui a reçu le troisième prix de ce trophée national France de la Fondation Yves Rocher Institut de France, pour un projet beaucoup plus éloigné de notre contrée, en Afrique, pour le développement d'une zone maraîchère au Burkina Faso. Alors, quelle est l'action que vous menez là-bas et pourquoi ?
Alors l'action que nous menons là-bas, au départ, est une action de santé, puisque notre association comprend à la base des médecins, des infirmières, des puéricultrices, mais maintenant des professions plus variées. Le problème que nous souhaitons améliorer avec l'aide des populations, c'est les maladies liées à la carence en vitamine A. Il s'agit d'une région particulière du Burkina Faso, dans le nord, à la lisière du Sahel, à la lisière du désert, si vous voulez, où les enfants présentent un symptôme qui est assez mystérieux pour les étrangers, c'est que le soir, quand le soleil se couche, ces enfants perdent complètement la vue. Et le lendemain matin, quand il fait jour, ils récupèrent la vue. En fait, c'est le signe qu'ils sont carencés très profondément en vitamine A.
C'est un projet qui, donc, travaille, lutte contre la malnutrition.
Oui. C'est la malnutrition. Notre objectif n'est pas de lutter contre toute malnutrition, mais nous, c'est surtout la vitamine A, mais ça n'empêche pas de lutter également contre l'enrichissement protéique, l'enrichissement énergétique. Mais le projet, c'est surtout ces maladies, parce que un enfant qui perd la vue, cela signifie que tous les enfants du village sont en maladie infraclinique. Ça ne se voit pas, mais ils manquent de vitamine A. Et ce manque de vitamine A les fragilise à l'extrême, et ils ont 4 fois plus de risque de mourir dans l'année à la suite d'une rougeole, d'une bronchite ou d'une diarrhée.
Alors, vous avez proposé de trouver des cultures maraîchères, justement riches en vitamine A pour aider ces populations.
Voilà, nous avons travaillé dans un premier village avec des femmes du village et une équipe de chercheurs également de Ouagadougou pour savoir qu'est-ce qu'elles avaient à proximité comme plantes riches en vitamine A. Dans le premier village, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de manguiers. Donc nous avons commencé par faire planter des manguiers. Chaque famille volontaire a eu droit à un plant de manguier. Et dans le deuxième village, donc Bonou, le projet a été d'instaurer un maraîchage. Et c'est une femme qui s'appelle Assetou, qui est porteuse du projet, une femme pleine d'énergie, qui a 4 enfants, et qui, en plus de tout ce qu'elle fait, a mené ce projet. Ça a commencé donc l'année dernière par 1 demi-hectare. Un puits, et cette année, 1 deuxième puits, 1 hectare entier, et une équipe vient de rentrer, et nous avons des photos qui montrent qu'il y a vraiment 1 hectare de terrain proche du haut désert qui est vert.
Rosemarie Fleury-Téchouer, Comment allez-vous utiliser maintenant l'argent que vous venez de recevoir pour le 3e prix National France du Trophée Terre de Femmes ?
Quand nous avons monté le dossier, le projet était donc l'extension du premier maraîchage, puisqu'il nous avait été fait une demande d'un deuxième puits et d'augmenter la surface. Mais il faut savoir que dans cette région, il y a deux saisons, une sèche, une saison des pluies. Or, les cultures maraîchères, ce sont des cultures de saison sèche, parce que pendant la saison des pluies, tout le monde se consacre à la culture des céréales, qui est l'apport énergétique de l'alimentation de base. Donc, ce maraîchage est déjà fait, l'association a avancé les fonds, mais il fonctionne tellement bien qu'il y a une demande de doubler, donc de faire 2 hectares, parce que toutes les familles qui souhaitent y accéder n'ont pas pu. Les hommes s'intéressent beaucoup au projet, alors qu'au départ c'était surtout les femmes.
Alors là, vous avez vraiment réussi, c'est une action complète qui a réuni tous les villageois.
Oui, et les autres villages, parce que nous essayons de faire du lien social entre les villages. Parce qu'en Afrique, les transports sont particulièrement difficiles, les gens ne sortent pas de leur village. Donc en général, quand nous faisons des réunions, des formations, nous faisons venir 2 personnes d'un village dans un autre. Nous favorisons les échanges et bien sûr, tout le monde a envie d'avoir un maraîchage. Et avec les 7000 euros, on va pouvoir faire les 3 maraîchages.
Pouvoir satisfaire tout le monde.
Ouais.
Bien écoutez, nous sommes ravis de vous avoir accueilli dans notre studio de Canal Academy. Nous vous félicitons à nouveau et nous félicitons aussi les autres lauréates du prix Yves Rocher, de tous les prix qui ont été distribués aujourd'hui. Et puis il y avait énormément de dossiers déposés et je crois que vous avez passé quelques jours toutes ensemble avant la remise du prix aujourd'hui. Et ça a permis aussi de connaître les projets des unes et des autres. Et j'imagine de continuer à créer des liens entre vous et de faire rebondir et de faire connaître cette action le plus loin possible. Parce que là, on est vraiment dans des projets à la fois en France, mais aussi à l'étranger et dans des projets qui touchent aussi tout le monde. Donc on s'inscrit dans un caractère, comme le chancelier le disait tout à l'heure, dans un caractère universel et sur des actions de grande humanité. Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci.
Alors, à la suite de l'interview que nous avions réalisée avec ces 3 premières lauréates françaises que vous venez d'entendre, nous avons eu l'honneur de recevoir dans nos studios Olga Tcherchnyova, qui venait de recevoir le Grand Prix International. Elle était accompagnée de son interprète. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'un point de mire d'accueillir Olga Tcherchnyova, qui vient de recevoir le prix, le Grand Prix International du Trophée Terre des Femmes 2006, décerné par la Fondation Yves Rocher, Institut de France. Mesdames, bonjour.
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 Alors, nous avons à nos côtés également Irina Protin, qui est directrice des opérations commerciales en Russie pour Yves Rocher. Vous êtes l'interprète d'Olga Tcherchnyova, qui a reçu un grand prix pour une action très exceptionnelle, baptisée le marathon écologique, une action qu'elle mène depuis 7 ans déjà en Russie, auprès d'enfants, de jeunes, de plus grands. Et nous allons donc découvrir avec vous tout ce projet, qui est plus qu'un projet maintenant, mais toute cette action transgénérationnelle et créatrice de liens sociaux. Quel âge ont les enfants qui participent à ce projet?
Сколько детям лет, которые участвуют в твоем проекте?
В нашем проекте участвуют дети с дошкольного возраста, это 8-9 лет, и до 17.
Donc les enfants qui participent à ce projet, ça démarre à partir de 7-8 ans et jusqu'aux étudiants de 17-18 ans.
Et vous touchez combien de ces jeunes personnes? Parce que j'ai entendu le chiffre astronomique de 116 000 personnes tout à l'heure, mais c'est bien cela?
Я слышала, что астрономическую цифру 116 тысяч. Это правда ли это? Расскажи, сколько человек действительно участвует в проекте? 116 тысяч – это за 7 лет.
Да, 116 тысяч – это за 7 лет.
Donc, tout d'abord, les 116 000 élèves, enfants qui ont participé à ce projet, c'est courant ces 7 années d'existence du projet.
D'accord.
И объясни каждый...
Экологический марафон – это система мероприятий, которые проходят в течение всего года.
Подожди, на эту тему нужно еще рассказать немножко о том, что про детей, что это школы и так далее. Да. Почему такое большое количество?
Этот проект объединяет детские образовательные учреждения, детские сады, школы,
Pourquoi donc les 116 000 personnes? C'est parce que le projet couvre et s'adresse à toutes les écoles qui vont être trouvées dans la région de Chelyabinsk, la ville natale, et on arrive à un chiffre assez important parce qu'il y a des écoles, les organismes, des centres aérés pour les enfants après l'école, des instituts et des collèges, des lycées.
Alors, le point de départ de votre action, je crois que c'est une question que vous avez posée aux enfants. Quelle était cette question?
Как что было началом твоей акции? Какой это, по-моему, мне кажется, что это был вопрос, какой это был вопрос, который задавали тебе дети, из чего это все пошло?
Вопрос задавали дети, что такое экология, чтобы объяснить.
Что... Les enfants, ils m'ont posé des questions, qu'est-ce que c'est l'écologie?
Alors,
Этот вопрос очень сложный. Как маленькому ребенку можно объяснить, что такое экология?
Comme c'est une question très complexe, comment expliquer aux enfants de bas âge qu'est-ce que c'est l'écologie?
Поэтому объяснили так, чтобы им было понятно.
Donc, on a évidemment
Экология?
Parlé aux enfants avec leurs propres mots et pour expliquer le plus, de manière le plus ludique possible.
Экология – это твой дом.
Donc l'écologie, c'est ta maison, c'est ta rue, c'est ta ville.
Твои мысли.
C'est tes pensées.
Дела.
C'est des actions que tu fais.
Твое здоровье.
C'est ta santé.
Et vous avez monté des ateliers, des petits exercices.
J'organise des ateliers, concours, расскажи.
Конечно, я организовываю не одна, мне помогают многие мои друзья, знакомые.
Bien sûr, je ne suis pas toute seule. Je suis aidée par mes amis, des pédagogues.
Vous touchez, je crois, une trentaine de professeurs qui relaient toutes ces actions dans les écoles environnantes.
Ça dépend des années, mais effectivement, il y a après une trentaine de professeurs qui aident. Est-ce que j'ai pas concours, c'est pas toi, je te atelier et tout.
Так как дети у нас участвуют разного возраста, и чтобы они могли принимать участие в этом мероприятии, в этом экологическом марафоне, в зависимости от возраста мы проводим различные мероприятия.
Donc comme les enfants ont des âges différents, donc en fonction de leur âge, on fait des ateliers ou des concours ou des actions qui peuvent être plus simples et qui parlent de manière plus ludique en fonction de leur âge. De l'écologie et pour qu'ils puissent participer à cette action.
Sur quelle zone, sur quel milieu naturel les enfants travaillent?
Где работают дети? В каком месте? Расскажи об этом.
Дети работают в городе и дети работают в национальных парках.
Donc les enfants ils travaillent dans la ville d'abord et ensuite dans les parcs, des parcs nationaux, dans les zoos, dans la rue.
Donc il y a deux actions, une action menée en ville et une action menée plutôt sur les plages ou à la campagne.
Значит, в твоем проекте есть две акции. Две акции, которые происходят в городе, и также две акции, которые ты проходишь в национальных парках, в пляжах, по прочистке и так далее. Расскажи немножко поподробнее, я думаю, о том, для чего чистятся их, когда про парки, что-то за лагерь. Так.
В городе у нас очень много парков, очень много улиц, скверов, которые необходимо убирать.
Donc dans notre ville, il y a énormément de parcs, de jardins qu'il faut nettoyer.
Есть специальные службы, которые
Bien
этим
sûr,
занимаются.
Il y a des organismes de la municipalité qui s'en chargent.
Им выделяют деньги.
Ils ont de l'argent pour nettoyer.
А так как нам денег не выделяли, то была необходимость обратиться
Mais
к властям города,
mon projet n'avait aucune,
в администрацию города.
Aucun prix, ni aucun financement. Je me suis adressée à la municipalité de la ville.
С просьбой, что часть работы, которую посильно детям, будем выполнять мы.
Pour justement permettre aux enfants d'aider dans le nettoyage des zones vertes de la ville. Et pour ce travail, donc, ils peuvent être récompensés, donc recevoir un salaire qui va être combiné en fin de l'année. Et après, avec cet argent, Olga amène tous les enfants en campement.
D'accord.
Dans les
donc
milieux
en fait,
naturels.
Les enfants sont, en quelque sorte, rémunérés pour ces actions de nettoyage. Et ensuite, cet argent est recueilli par Olga Tcherchnyova pour emmener tous ces enfants dans des sortes de, entre guillemets, colonie écologique, enfin sur le thème de l'écologie, où à nouveau les enfants retravaillent à la définition de cette grande notion, à l'apprentissage de cette notion par des jeux, etc.
Значит, таким образом дети твои работают, и когда им дают небольшую зарплату, и потом ты их вводишь в какие-то колонии, в экспедиции, вы получаете. Расскажи лучше, что делаешь конкурсы, и что те, которые победители, ты их сможешь, потому что иначе ты не можешь делать все остальные деньги.
Я просто немножко вернусь к тому, что конкурсы рассчитаны на детей разного возраста. В течение года проходят конкурсы такие, как, например, конкурс рисунка, конкурс фотографии, конкурс интеллектуальный для младших школьников.
Donc, je vais revenir un petit peu pour parler des concours, parce qu'avant de partir en expédition et en colonie, il y a des concours qui passent toute l'année avec les enfants, donc de différents âges. Donc, c'est les gagnantes qui sont, parce que les moyens financiers ne le permettent pas, c'est les gagnantes de ces différents concours dans toute l'année qui sont amenées en colonie.
Те дети, которые старше, они делают исследовательские исследования, делают исследовательские
Donc,
работы.
Il y a toutes sortes de concours, il y a des concours de théâtre, il y a des concours de dessin, des photographies, tout ça sur les thèmes de la nature. Les enfants de, qui sont plus âgés, ils font des recherches scientifiques sur la nature.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de concours et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, par exemple, le jour d'une récompense à un de ses enfants ou de ses
groupes
d'enfants.
Скажи, о каком-нибудь самом, о тебе наиболее запомнившемся конкурсе, который в тот день, когда ты давала награды тому человеку, девочке или мальчику, который выиграл, что тебе запомнилось больше всего? Один.
Запоминаются детские глаза.
C'est difficile d'en choisir un, parce que c'est les yeux des enfants qui parlent.
У меня, я вообще определяю человека, душу человека по глазам.
Je vois l'âme de l'homme, de la personne par les yeux.
Они не обманывают.
Donc les yeux ne trahissent jamais.
Либо они радуются, либо они плачут, или же они злые, но все это видно сразу.
Les yeux, ils peuvent, les yeux rieurs, ils peuvent pleurer, ils peuvent être émus, mais ça se voit tout de suite.
А почему вот мы проводим конкурсы? Потому что любую работу, которую выполняют дети, я считаю, что она должна вознаграждена быть.
On fait des concours parce que les enfants, quand ils font des actions, ils ont besoin d'avoir des récompenses. Ils ont besoin de sentir
concernés, valorisés
et concernés par ce qu'ils font.
Поэтому вот экологические экспедиции – это награда детям за их труд.
Et les expéditions écologiques, les colonies, c'est une récompense pour les enfants, pour le travail qu'ils auront pu
faire
au jour
le jour. Combien de temps
partent-ils? Сколько времени они уезжают в колонии,
в экспедиции? Желающих очень много, и дети готовы жить в них все лето.
Comme il y a énormément de gens qui ont envie de venir et les enfants, ils sont prêts de vivre toute l'été. Mais pour des questions évidemment financières, c'est pas possible.
Mais comme il n'y a pas suffisamment de moyens, dans l'expédition, ils viennent seulement les enfants qui deviennent lauréats ou gagnants de ces concours.
Donc, comme nous n'avons pas de financement, les gens qui partent, enfin les enfants qui partent en expédition, elle appelle ça une expédition.
D'accord.
Donc, c'est des enfants qui sont des lauréates ou des grands gagnants des concours.
D'accord.
Сколько времени длится?
Время.
Сама заезд, скажем.
Чтобы охватить большее количество детей, заезд длится 12 дней, 2 недели.
Donc, pour être le plus large possible et permettre au maximum des enfants de participer à ces expéditions, chaque expédition, elle dure entre 10 et 12 jours.
Tout à l'heure, nous avons entendu, je crois, Jacques Rocher expliquer que l'action de Madame Olga Tcherchnyova n'avait jusqu'à présent jamais reçu d'argent. Et donc, c'est la première fois qu'on lui remet de l'argent d'abord pour soutenir cette action qui s'est inscrite dans le temps, qui s'inscrit aussi dans une perspective de développement durable. Et tout à l'heure, il y avait beaucoup d'émotions. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisque autant d'efforts ont pu se concrétiser dans des actions réelles, ont touché beaucoup d'enfants. Maintenant, qu'allez-vous faire avec le Grand Prix international de la Fondation Yves Rocher Institut de France?
Шак говорил о том, что это первый раз, когда тебе дали премию, чтобы отпраздновать твою работу и так далее. Конкретно, после того, как ты уже столько всего сделала, что ты будешь делать, на что пойдут эти деньги? Скажи.
За 7 лет работы у нас накопился огромный опыт.
Donc, pendant les 7 ans de travail, nous avons déjà une grande expérience de diverses actions.
Я знаю, что у нас в стране есть необходимость поделиться этим опытом.
Donc, dans notre pays, c'est extrêmement important de partager cette expérience.
Потому что другие города, области тоже желают работать по такому проекту.
Parce qu'il y a énormément de villes, de régions qui seront intéressées de faire des actions, de mener des actions semblables.
Donc c'est vraiment aussi l'intérêt, un des critères des prix, c'était justement que ces actions servent de modèle à d'autres associations de femmes, en fait.
Конечно, это тоже один из важных моментов этой премии, для того, чтобы ты служила моделью и экспериментом для всех остальных, чтобы они могли также это сделать. Скажи подробнее, что ты хочешь делать.
А чтобы они узнали вот о нашем проекте, ну, первое, что мне нужно, это и нам нужно, это хорошая оргтехника.
Bah, pour faire connaître mon projet déjà à des pédagogues ou des centres qui pourront aider, c'est aussi, il faut avoir de l'équipement. Et l'équipement informatique, elle n'a rien.
Donc,
il faut quand même un appareil photo, il faut une caméra, il faut un ordinateur, il faudra créer un site internet pour faire partager l'information.
Et pour la diffuser.
Ça, c'est premièrement pour partager notre expérience.
Ah, еще, конечно, так как у нас нет стационарного лагеря, где бы мы могли с детьми жить, то хотелось бы купить еще палатки, которые у нас не хватает.
Et quand je pars en expédition avec les enfants, bah, évidemment, je manque de tout. Je manque des sacs de couchage, je manque des tentes. Et donc là, la deuxième partie prioritaire, c'est aussi l'équipement pour partir en expédition.
Non, моя мечта... сделать детский стационарный экологический лагерь.
Donc, son rêve, c'est d'avoir un lieu qui sera construit où elle pourra amener le maximum d'enfants pour justement que ce soit une sorte de campement écologique pour enfants.
Который бы находился в экологически чистом месте, donc, красивом месте.
Donc, un lieu qui pourrait être dans un parc national, parc très beau.
И где дети могли бы отдыхать не раз в году, весенние, осенние, летние,
où les enfants pourraient venir durant toute l'année pendant les vacances scolaires parce que
donc pour l'action s'inscrirait cette fois dans vraiment toute une année et plus sur une période de l'année, effectivement c'est un joli défi.
Et... где могли бы встречаться дети не одного города, а с разных городов России, обмениваться информацией.
Oui, et aussi, le rêve d'Olga, c'est de faire venir et faire connaître la région, d'autres écoliers, d'autres villes, et faire des échanges.
Alors, pour finir, êtes-vous déjà en contact avec d'autres villes de Russie intéressées par votre projet?
Есть ли у тебя контакт с другими женщинами России, которые из других городов, которые были бы заинтересованы твоим проектом?
Да. Дело в том, что в этом году, в ноябре, мы уже запланировали себе сделать...
Междугородный?
Нет, российский семинар, где будут приглашены все желающие, которые хотят узнать о нашем опыте, и желающих таких очень много.
Donc, oui, elle est déjà en contact avec énormément de villes qui se trouvent à côté de Tchelyabinsk, dans la région d'Oural. Et elle a déjà prévu dans son action cette année de faire un séminaire entre d'autres villes, régions qui pourraient être intéressées par son action, par son expérience.
Olga Tcherchnyova, je voudrais juste, pour dernière question, vous demander comment vous avez eu envie de vous intéresser à l'écologie et... comment avez-vous pris conscience de l'importance de cette question?
Чтобы закончить последний вопрос, Ольга, каким образом вы начали интересоваться вопросами экологии, с чего это пошло и почему это сейчас так важно и составляет твою жизнь?
Мы когда разговаривали с Жаком, он сказал, что он из небольшой деревни, да? Мне эти слова были очень близки, потому что я тоже жила одно время в небольшой деревне. А люди, которые живут в деревне, они очень близки к природе.
Quand j'ai parlé avec Jacques Rocher, il m'a dit qu'il vient d'une petite ville, petit village au cœur de Bretagne,
s'appelle la Gatie. Jacques Rocher, qui est le président de Yves Rocher.
Et Olga, elle a vécu dans son enfance dans un petit village. Il dit que les gens qui habitent dans un village, ils sont très proches de la nature.
Когда стала взрослой, я заканчивала университет, факультет биологии.
И après, en étant plus âgée, elle a commencé à faire ses études et elle a fait des études de biologie.
Так что это еще и моя работа, и моя специальность.
Donc c'est ma spécialisation, c'est mon métier et c'est une évidence pour moi.
Поэтому мне это очень все близко, близко и дорого. Поэтому я занимаюсь этим с огромной любовью.
Je fais ça avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour.
Olga Tchertchnyova, nous vous remercions. Nous sommes très émus de vous avoir reçu, d'avoir reçu une de ces femmes exemplaires, aujourd'hui lauréate du trophée Terre de Femmes. Et nous souhaitons bonne chance, évidemment, à toute votre action en Russie, en espérant justement qu'un jour, vous pourrez entendre sur un des ordinateurs l'émission de Canal Académie que nous venons d'enregistrer.
Merci beaucoup.
Мне еще хотелось бы поблагодарить всех тех, кто со мной работает, и моих детей, которые со мной работают.
Moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont jamais participé à ce projet et dire merci à ma famille, mes enfants.
Это такие же женщины, и сегодня в такой день я их просто еще хочу поздравить.
Comme c'est, il s'agit du 8 mars, et c'est une fête très importante en Russie. Je veux transmettre mes meilleurs sentiments à toutes les femmes qui ont travaillé, et je suis fière d'avoir gagné. Et bonne fête à toutes les femmes.
Merci beaucoup, Olga Tchertchnyova. Merci, merci. Ainsi s'achève l'émission Point de Mire, qui retraçait cette journée du 8 mars 2006 à l'Institut de France, consacrée à la remise des prix de la Fondation Yves Rocher. Je vous invite à consulter à partir du texte qui accompagne l'émission le site internet de l'Institut de France et celui de la Fondation Yves Rocher, où vous trouverez l'ensemble des lauréates récompensés cette année.